7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, c'est le retour des...
Chatcheuses.
Comme chaque mois, je reçois des femmes journalistes des quatre coins du monde pour commenter l'actualité de leur choix. Bonjour, Veiju Naravan.
Bonjour.
Journaliste indienne, vous êtes de nouveau installée à Delhi. On est ravis de vous avoir de passage à Paris pour quelques mois. Ana Navarro Pedro, bonjour, bon dia.
Bon dia, Emmanuel.
Journaliste pour l'hebdomadaire portugais Visao. Paola Martinez, hola Paola.
Hola Emmanuel, hola a todos.
Journaliste chilienne, mais vous scrutez une bonne partie du continent sud-américain. Également avec nous, une spéciale guest. Bonjour, Sarah Jane Fouda.
Bonjour.
Vous écrivez pour Le Monde Afrique et vous menez actuellement une enquête sur le harcèlement sexuel en Afrique. Et vous nous parlerez des témoignages que vous parvenez à recueillir sur un continent où le sujet demeure un peu dans l'angle mort de l'actualité, malgré la déflagration provoquée par l'affaire Weinstein et la libération de la parole des femmes. Et quant à vous, les voisines, bien évidemment, si vous nous écoutez, si vous êtes une femme, si vous êtes journaliste, vous pouvez réagir ou si rien de tout cela, mais que vous souhaitez réagir, néanmoins 33 1 84 22 71 71, c'est aussi notre numéro de téléphone sur WhatsApp et vous pouvez aussi poster des messages écrits que je lirai à l'antenne.
Cuéntame qué te pasa.
Comment ça passe ça?
Si tu peux me laisser aller jusqu'au bout, s'il te plaît.
Tchatcher, c'est parler avec plaisir.
Ce sera tout.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Ana Navarro Pedro, vous êtes au bord du désespoir car le concours de beauté Miss America ne sera plus jamais comme avant.
Nous ne jugerons plus nos candidates sur leur apparence physique.
Come on Barbie, let's go party.
Miss America, c'était basique. Il y avait 50 filles, une par état américain, qui annonnaient trois sottises. La guerre, c'est mal. Tuer les animaux, c'est pas bien pour les animaux qui préfèrent manger du foin que mourir. Et la méchanceté, c'est pas gentil.
Come on, girls. Give me a boo, boo. Give me a B, B. Give me a S, S. Go, boo.
Adieu les tétons. Au revoir les hucs. La femme n'a pas besoin de se dessaper pour être belle. Selon les organisateurs, les candidates devront montrer ce qu'elles ont, je cite, au plus profond de leur âme. Entre les névroses d'enfance mal guéries, les pulsions sordides et les rancœurs, l'âme humaine est glauque. Si c'était un objet, ce serait une cuvette de toilette d'un hôtel Formule 1.
Les filles ne défileront plus en maillot de bain. Ça y est, c'est décidé pour le concours de beauté Miss America. Ça a été annoncé le 5 juin dernier par la présidente du comité d'organisation. Il faudra parler de cette personnalité, de cette présidente. Et donc, le défilé en robe du soir se fera en tenue de son choix. Donc, jogging, pyjama, tout est possible. C'est pour ça que vous avez intitulé le sujet Miss America en pyjama pour vous, Ana Navarro Pedro. Il faut décidément montrer qu'on a tiré les leçons de l'affaire Weinstein.
Oui, donc pour combien de temps cette bonne décision reste à voir. En pyjama, jogging, c'est très à la mode. Les manteaux aujourd'hui, c'est des robes de chambre d'hier, des peignoirs d'hier. Donc voilà. La question, c'est vrai que, alors là, on entendait un comique français qui s'appelle Tanguy Pastureux, je crois,
oui, avec sa mauvaise,
avec sa mauvaise foi extraordinaire, elle était très drôle. Mais il faut dire aussi que ces dernières années, les Miss, les candidates Miss qui étaient très jolies, qui étaient en bikini, donnaient des réponses qui n'étaient pas si bêtes que ça, n'annonnaient pas de trucs très bêtes. Par exemple, l'année dernière, on demande à une fille, si c'était bien, qu'est-ce qu'elle pensait? Les États-Unis, Trump a quitté les accords de Paris sur l'environnement. Si c'était bien, oui ou non. Et pourquoi? Et elle dit non, la plupart, il y a une conviction croissante qu'il y a en effet un problème climatique très important, ce n'est pas celle du président, mais de toute façon, abandonner une place à une table de négociation en diplomatie, c'est toujours une erreur. Donc, ce n'est pas annoncer une idiotie, là. Et beaucoup ont donné des réponses.
Donc, Trump peut candidater à Miss America maintenant?
N'oubliez pas que Trump était le propriétaire de Miss America avant, et qu'il aimait bien aller en coulisses voir les filles quand elles dévêtaient leur bikini. Donc,
bon, mais donc, sur le fond, qu'est-ce que ça vous inspire?
Sur le fond, ce qui m'inspire, c'est le suivant. Ok, c'est pas mal d'aller dans ce sens et de dire on va regarder surtout la beauté intérieure des filles, etc. Et comme disait Tanguy Pastureau, si c'était ça qui nous intéressait, ça fait une belle lurette qu'on l'aurait su. Non, je pense qu'on devrait supprimer tout simplement ces concours de beauté qui en fait établissent qu'il y a un seul standard pour les femmes qui est celle de son apparence physique, qui peut aller très loin dans certains pays, Venezuela, Corée du Sud, en Chine, dans la standardisation de la beauté, même par le bisturi, par la chirurgie esthétique. En Chine, il paraît que c'est tellement réglementé que c'est même réglementé la distance entre les tétons pour pouvoir être candidate. À moins ou au plus
donc,
de cela.
Donc vous vous dites qu'il faut supprimer, comme l'a fait l'Argentine en 2015, fin des concours
Absolument.
De beauté, remplacé par des récompenses citoyennes.
Pour des garçons ou des filles.
Ouais.
Des jeunes citoyens, que ce soit des garçons ou des filles. Et oui, pourquoi pas. Je pense que ce serait une très meilleure idée, parce que cette notion de maintenir la femme, voire l'homme, dans les concours de Monsieur Univers, etc., comme un objet physique.
Même au second, vous venez de dire qu'elles sont super intelligentes, ces Miss America.
Il y en a eu, je dis qu'il y en a eu.
Mais sans besoin de justifier.
Oui, elles n'ont pas été élues par leur cerveau, elles étaient élues par leur...
Oui, mais il y a quand même un petit souci, Anna. C'est que la compétition, c'est quand même pour des étudiantes, pour financer...
Alors, on le dit, et on le dit que c'est fait pour financer les études aux États-Unis qui sont très cher. En France, on nous répond que c'est une expérience humaine extraordinaire. Mais a-t-on besoin d'être...
Comment se créer un carnet d'adresses en quelques mois
et puis il y a une visibilité énorme.
Bon, donc, de ce côté-là, Veju Naraval...
Je n'avale pas ça. On peut donner des bourses autrement et on peut avoir des expériences humaines fantastiques autrement.
J'étais très, très amusée d'entendre une ancienne Miss America qui était interviewée sur une chaîne de radio qui disait, mais vraiment, c'était catastrophique de mettre fin à ce concours avec bikini parce que, voyez-vous, il y a certaines filles qui ont quelque chose dans la ciboule, qui peuvent parler intelligemment, mais ce serait une tragédie pour les maintes filles qui n'ont pas d'éducation, qui ont un très bas niveau de connaissance du monde, etc., mais qui ont un corps, un joli corps, et elles arrivent à sortir... Par ce biais-là, ça leur donne de la confiance. Faire leur entrée, c'est une, entre guillemets, une chance. J'étais assez intriguée par cet argument utilisé par cette femme. Que pour les filles qui n'ont rien d'autre que leur corps, pourquoi est-ce qu'on veut empêcher qu'elles utilisent la beauté de leur corps? Est-ce que la beauté de son corps n'est pas un attribut comme un autre? Pourquoi est-ce qu'on brise les attributs intellectuels? Quelqu'un a quelque chose dans la tête. Elle
mais c'est très intéressant parce que c'est un argument utilisé en France aussi, en plus de l'expérience humaine très importante qu'on a pendant 3 mois, on va dans un endroit de rêve, etc. Mais je ne crois pas que l'utilisation de son corps soit la seule façon de s'en sortir. Il y a des filles aussi qui n'ont pas un très grand cerveau et qui n'ont pas un très grand corps. Et si
et
on veut utiliser son corps,
qui peuvent avoir
pour
une
s'en
grandeur
sortir,
d'âme, c'est ça que vous voulez dire, une générosité.
Oui, de toute façon, déjà, vous savez que deux filles deux personnes à diplôme identique pour un même poste, même expérience, c'est celle qui a le plus, homme ou femme, qui a l'apparence physique la plus agréable, qui pourra être retenue, qui sera retenue. Donc déjà, elles ont un avantage dans la vie psychologique, sociologique. Pourquoi encore créer un événement très élitiste, très sélectif, uniquement pour une demi-douzaine de filles? Non, c'est pour... utile pour avoir de la publicité, c'est pour...
Mais Anna, même les examens sont sélectifs, tout est sélectif dans la
Absolument,
vie.
Absolument, mais pourquoi donc... créer un événement alors, en plus, uniquement dans ce but-là?
Non,
alors
mais qu'il si, s'agit ça, que si de... ça plaît à que certaines de... personnes, pourquoi donc avoir des Formule 1? Parce que si c'est uniquement pour montrer sa capacité de conduire une voiture, alors dans ce cas-là, on peut démolir chacun de tes arguments.
On peut démolir, mais là, on parle du corps
Et alors, pourquoi c'est tellement différent? Pourquoi le corps est tellement différent de son habilité de conduire
Parce
quelque
qu'il
chose
est,
bien
il est séparé
ou d'être
peut-être
fort.
Sexuellement du cerveau.
Pardon?
Il est séparé sexuellement du cerveau, objectivement, par la plupart des gens qui sont en faveur de cette
Ah non, je ne crois pas que c'est tellement séparé.
Ah si,
je suis désolée, tout est lié dans le cerveau.
Regardons, oui, bon, alors là, parle dans l'esprit de ceux qui regardent et de ceux qui font de la com et qui font de la publicité là-dessus.
Bon, moi, j'ai répété simplement les choses qu'une ancienne Miss America a dit.
Oui, je faisais un travail. Mais tous ceux reportage. Qui font de l'argent là-dessus le disent. Évidemment, 7 millions de téléspectateurs pour un concours de beauté, c'est évidemment.
En tout cas, septembre prochain, ça va pas rigoler dans les chaumières avec Miss America en jogging qui défilera et qui parlera de la politique extérieure des États-Unis. Donc, on verra si Miss America pourra survivre à cette transformation voulue par une néo-féministe, Gretchen Carlson, qui est l'ancienne lauréate elle-même d'ailleurs et nouvelle présidente de la Miss America Organization.
Et au cœur d'un scandale.
Qui a fait tomber le PDG de la Fox pour harcèlement sexuel d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre
Rappelons
sujet.
Rappelons que Vaijou, quand même, à l'université, a été une. Je pense que tu as été une des en rhétorique, une des. Tu faisais des concours de rhétorique à l'université, non?
C'est pour ça qu'elle est ici. On va peut-être pas faire toute l'émission sur Miss America,
mais pas
si
de
vous êtes d'accord.
Pas de
On a d'autres sujets à débattre. Paola Martinez, que se passe-t-il au Chili avec cette vague féministe? D'ailleurs, il y a quelques heures, c'est indépendant, mais on vient par ailleurs d'apprendre que le Vatican a de nouveau dépêché ses émissaires pour demander pardon au nom du Vatican aux victimes des prêtres pédophiles au Chili. Donc, on est dans une ambiance de parole libérée. Que se passe-t-il? On a 30 universités, établissements secondaires en grève, ça dure depuis des semaines. Oui, où est-ce qu'on en
ça
est aujourd'hui?
Ça a commencé les 17
avril. Et qu'est-ce
que
ça vous inspire, vous, journaliste chilienne?
Ça m'inspire qu'il y ait du bonheur. Je suis très très contente que les Chiliens soient dans la rue en train de manifester, de dire Bastaya à l'harcèlement sexuel, à l'éducation sexiste.
Et avec des slogans, on nous tue, on nous viole et personne ne fait rien. Oui. No es no, c'est quoi que tu ne comprends pas? C'est le N ou c'est le O?
Oui, voilà.
En fait, c'est agressif vis-à-vis des hommes.
Il faut savoir qu'il y a un contexte quand même au Chili. Il faut le savoir, il faut mettre aussi ça à la lumière. Et c'est une société très patriarcale, très machiste, malgré les faits qu'on a une présidente deux fois au pouvoir, malgré les faits qu'il y ait beaucoup de politiques aussi envers l'égalité des genres, etc. Et ça a commencé le 17 avril, alors que dans une université dans le sud du Chili, les filles, ils sont arrêtés d'aller en cours parce qu'il y avait une plainte pour abus sexuels envers un professeur qui n'a pas été du tout prise en compte par les autorités de l'université. Donc, ils se sont arrêtés de travailler. Ça a suivi la grande université de droit du Chili, l'Université de Chile, qui a fait aussi une lettre énorme en disant, en dénonçant tout cet harcèlement, qui n'est pas seulement des abus sexuels, hein, qui a lieu envers des profs parfois, et aussi envers les élèves, mais aussi toute une éducation qui est autour du fait que, par exemple, encore une citation, toi, t'es un peu moche, donc du coup, il faut mieux que tu sois intelligente, parce que si t'es si moche et pas intelligente, tu n'auras jamais un mari. Des choses comme ça. Oh, pourquoi vous venez avec un décolleté de cette taille-là, madame, à l'examen? Ça, vous venez donner un examen et pas trier le lait, quoi. Des choses comme ça,
c'est
horrible.
Ça, des réflexions de profs.
Ces réflexions des professeurs, ces réflexions qui, non-stop, les filles au Chili, les femmes universitaires, ils subissent en permanence. Et donc, il y a un mois de mai féministe qui a surgi.
Pourquoi maintenant? Ça ne date pas d'hier.
Parce qu'en fait, je pense qu'il y a tout un effet boule de neige dès la libéralisation de la, libéralisation de la parole. Ça a été peut-être l'hashtag MeToo Yo también qui a déclenché toute l'affaire Weinstein, bien entendu. Ça fait aussi une partie de la génération actuelle du Chili. C'est une génération qui a plus des, qui
ultra
n'a plus
les chaplons
de la dictature. C'est des filles qui ont 18-25 ans aujourd'hui, qui sont les héritières de toute cette année des silences qu'on a vécu pendant 17 ans de dictature, 73 et 90. Et donc, cette génération actuelle, elle veut dire, ça suffit, basta.
On c'est un mouvement sans précédent depuis la dictature de Pinochet.
Pardon?
C'est un mouvement sans précédent.
Ah, sans précédent. Surtout, ce qui est intéressant,
populaire,
c'est que jusqu'à présent, il y avait toujours eu des mouvements transversales. C'est ce qu'il faut aussi rappeler. C'est très transversal. Il n'y a pas hiérarchie à l'intérieur. Et surtout, il y a la question de la femme, du corps de la femme. Encore une fois, c'est toujours la question du corps de la femme. Et comment cette femme se positionne dans une société qui entièrement et profondément patriarcale. Oui. Où il y a un omerta total aussi des autorités. Il faut savoir que Piñera, qui est l'actuel président, elle fait mais absolument l'oreille sourde à toutes les manifestations. Il y a 200 000 filles qui sont sorties dans la rue quand même à manifester au mois de mai. Hein. 100 000 la semaine dernière. Et les facs sont encore bloqués. Ça veut dire que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et c'est pas juste n'importe
quoi. Vous avez l'espoir que ça va déboucher sur quoi finalement? 70% des Chiliens sont favorables à cette révolte. Je disais révolte populaire, c'est pas le cas en réalité.
Non, c'est pas une révolte populaire.
C'est partie des universités. C'est une
révolte
qui vient
et c'est
d'une jeunesse éclairée.
Et c'est très, très. Il y a beaucoup de femmes. Il y a que des femmes d'ailleurs dans les cortèges. Ça, c'est. Il faut le savoir. Les hommes sont juste là pour faire les circuits, sécuriser les parcours. Et mais moi, j'attends une réponse des parts des autorités, du ministère de l'Éducation, ses ministres aujourd'hui, sa ministre aussi qui a très, sa ministre qui est, je pense, qui est profondément misogyne, arrête ses propos aussi en disant que c'est mineur, que ça va passer, arrêtez, vous êtes folle, parce que presque
c'est ce que demandent les Chiliens, la démission des ministres.
Donc,
qui minimise les violences sexistes,
tout à fait.
Notamment
moi,
le ministre de l'Éducation.
J'attends un vrai protocole de la part de nos universités. Lorsque les filles font des plaintes, ils posent des plaintes pour harcèlement sexuel, abus sexuel et tout ce qui va avec, qu'ils puissent avoir une procédure sérieuse suivie de laquelle les coupables seront poursuivis. C'est ce qu'ils demandent. Après, la question de l'éducation, ça va plus vite. Ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que ça commence aujourd'hui. Il y a ces mouvements. Ça va vraiment percer l'imaginaire collectif du pays. C'est-à-dire que c'est une nouveauté. Ça a pris au dépourvu, en fait, un peu par surprise tout le monde. Mais ça fait que ça dure depuis un mois et demi, quand même. Et ce n'est pas prêt à s'essouffler. Donc, je pense que les mois qui viennent, en fait, et en plus, il faut savoir qu'il fait froid au Chili en ce moment, les filles sortent quand même.
C'est l'hiver.
C'est l'hiver. Les filles sortent quand même dans la rue. Ils tiennent vraiment haut et fort, en fait, leurs revendications.
Vous êtes fière des Chiliennes.
Je suis très fière des Chiliennes. Je me dis, enfin, encore une fois, la rue elle va décider. En espérant que nos présidents, qui est un peu un guignol, je le dis ouvertement, je n'ai aucun problème à le dire, qui écoute vraiment les revendications et qui puisse mettre encore une fois une législation et l'appliquer comme il faut. J'espère. Mais bon, je
Mais
suis Paola, assez confiante.
Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en 2016, vous aviez un ministère des femmes qui avait été mis en place.
Les problèmes, ce qu'on a toujours discuté, c'est qu'il y a toujours de la loi et après ce qu'ils ont fait avec la loi. On a fait un ministère de la femme, bien entendu, sous un gouvernement féministe, enfin de Bachelet, qui s'était quand même énormément travaillé pour avancer l'inégalité des genres. Aujourd'hui, on a un gouvernement de droite où le président il s'est prononcé manifestement avec des propos assez sexistes il n'y a pas longtemps. Donc du coup, les problèmes, il est là. Le nouveau gouvernement, il n'est pas du tout prêt par ailleurs, de faire des efforts justement pour appliquer cette loi, pour mettre en fait au service les ministères de la femme, au service de ses revendications.
En tout cas, c'est peut-être un ministère des hommes, en fait.
C'est vraiment une des conséquences de la déflagration de l'affaire Weinstein. Sarah Jane Fouda, vous écrivez pour Le Monde Afrique et vous travaillez donc en ce moment une enquête sur le harcèlement sexuel en Afrique, où là, effectivement, on n'a pas de revendications ouvertes, de manifestations, il n'y a pas eu de libération de la parole, même s'il y a eu quelques hashtags qui ont été assez suivis, notamment au Sénégal, alors que le sujet devient, on l'entend, de plus en plus politique, politisé dans le reste du monde. Vous, quels sont vos constats à la lumière des témoignages que vous avez commencé à recueillir dans plusieurs pays? Est-ce qu'il y a du coup la question est peut-être impolitiquement correcte, je ne sais pas, une spécificité du harcèlement en Afrique
Déjà...
à l'encontre des femmes?
Oui, alors déjà, effectivement, elles se sont pas exprimées parce que elles se sentent un peu à l'écart du mouvement qui était très axé sur le harcèlement, alors que de leur point de vue, leur problème à elles, il est beaucoup plus sur les agressions sexuelles en tant que telles, tout simplement parce que finalement, toutes les catégories sont décalées. La drague, c'est le harcèlement, c'est l'agression, l'agression arrive beaucoup plus, enfin, les crimes arrivent beaucoup plus vite. Mais elles ont des choses à dire, elles veulent parler. Moi, toutes les femmes que j'ai rencontrées, finalement, elles m'ont dit...
Qui témoignent anonymement pour le moment?
Pas toutes. Pas toutes. En fait, j'en ai interviewé quand même on a discuté, c'est plus une conversation que des interviews. Donc nous discutons depuis le mois de janvier et elles me disent toutes, on étouffe, on en a assez, on veut parler. Malheureusement, quand elles parlent, il y en a qui acceptent de parler effectivement et de dévoiler leur identité. Mais on sent bien une pression, elles s'auto-censurent à un certain moment, donc on en a pas mal qui nous ont lâchés.
Alors, vous en retirez plusieurs constats. Vous le disiez d'abord, la drague, c'est le harcèlement.
Oui, les Africains ne draguent pas.
Ils harcèlent.
ils harcèlent, c'est comme ça qu'ils perçoivent les choses. En fait,
ça va peut-être réagir là au standard quand même, parce que vous lancez une accusation.
Mais non, c'est pas une accusation. Ils le savent bien de toute manière. Ce n'est pas dans les mœurs, la séduction.
C'est pas un joli compliment de la rue.
Non, pas du tout, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre, il s'agit moins
à l'université, il y a des amitiés qui se tissent, il y a de la drague, des attirances.
Oui, quand on est petit, effectivement, entre la maternelle et le collège, on drague.
D'accord. Mais
après, ça disparaît.
À l'université, c'est déjà fini.
Ah après, bon ça disparaît.
Et c'est généralisé, vraiment.
Deuxième point, le consentement se force, vous dites. Là, il y a un problème sur la question du consentement.
Ah oui, mais ce ne sont pas les femmes qui le disent, ce sont les hommes eux-mêmes. Parce qu'il y a quelques hommes qui ont accepté de se confier et qu'ils disent. Ils disent, les grands frères, ils nous ont toujours dit, quand tu dragues, eh ben, si elle ne veut pas, tu insistes. Parce qu'en fait, c'est ce qu'elle essaie de te faire comprendre. Le non, c'est oui. Donc, le oui, bon, on ne le demande pas.
Comme si toutes les filles disaient, finalement, harcèle-moi si tu peux.
C'est ça, c'est harcèle-moi si tu peux.
Cap ou pas cap. Et quand il s'agit d'une agression ou d'un harcèlement, la question sur laquelle vous avez questionné les femmes, c'est que faire ? Se plaindre ? À qui ? Comment ? Pourquoi ?
Mais elles ne peuvent pas se plaindre, d'une part parce qu'au niveau des législations dans la plupart des pays d'Afrique francophone, le terme de harcèlement, est devenu une catégorie juridique très récemment au Cameroun, on est tout de même en 2016, donc ça n'existe pas. De l'autre côté, il y a les lois et il faut passer par les lois, ça c'est certain, mais une femme qui va aller au commissariat pour se plaindre de harcèlement, on va lui rire au nez. Hein. On ne comprend pas très bien.
C'est déjà compliqué pour les plaintes pour viol. Quelles sont les situations qui reviennent le plus souvent dans les témoignages de ces femmes que vous avez rencontrées, les situations propices au harcèlement ?
Alors, je pense que ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'il n'y a pas de situation propice au harcèlement. Le harcèlement, c'est l'air que ces femmes respirent à longueur de journée. Et en fait, moi, dans cette discussion que j'ai eue avec elles, on s'est très vite rendu compte que finalement, nous ne discutions pas de ce que étaient en train de faire les hommes. Nous étions en train de discuter de ce qu'une femme devait craindre dans son parcours de vie. C'est totalement autre chose. Donc, les filles sont éduquées pour faire face à un certain nombre de menaces. Et puis les garçons, eux, ils sont libres. Donc, ils sont la menace concrète. Et donc, ces femmes-là, elles trouvent des moyens de gérer, biaiser. Enfin, voilà. Elles gèrent ça au quotidien.
Sarah Jane, vous avez fait ces interviews sur le terrain. C'était où ?
On les a fait beaucoup par au téléphone, on s'est rencontrés, on s'est vus plusieurs fois parce que c'est pas toujours c'est à la fois une parole qui doit sortir parce que effectivement elles racontent leurs expériences personnelles.
Mais je voulais sur le continent africain, est-ce que vous en tant que femme quand vous étiez là sur le terrain en train de faire ces conversations, des entretiens, etc. Est-ce que vous avez senti ce que ces femmes décrivent envers vous, parce que vous
cette
aussi,
pression.
Vous êtes une femme.
Alors, cette oui, pression. Je suis une femme, c'est une chose, mais je suis une femme noire et africaine. Donc, le harcèlement ou des choses comme ça, ce sont des choses que je connais, ce sont des choses que j'ai vécues moi-même. Mmh. Et en fait, on se dit toujours, oui, ça m'est arrivé, et on ne se rend pas compte que... C'est pas une question de personne, c'est une question à un moment donné d'environnement.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la parole se libère sur le continent africain, Sarah Jane Fouda, à la lumière de ce que vous avez commencé à faire comme recueil de témoignages ?
Moi, j'ai vu, j'ai croisé des femmes qui sont extrêmement courageuses et je pense que déjà, le simple fait qu'il y en ait une, deux qui disent on étouffe. Ça fait aussi parler les autres. Parce que le souci, ce qu'on leur oppose le plus souvent, c'est « oui, mais non, ça, ce sont des histoires d'européennes, c'est pas notre culture ». Or, ce n'est pas un problème de culture, c'est un problème de société, de choix de société. Parce qu'en fait, ce qui se passe en Afrique, ça aussi, c'est une conclusion à laquelle on est arrivé. C'est qu'on a des sociétés qui sont de plus en plus... où le pouvoir est de plus en plus concentré. Où finalement, voilà, un homme qui gagne, qui réussit, il a tout. Il a l'argent, il a les voitures et les femmes font partie du butin. Donc, il est là le souci. Il est dans la manière dont on on fait avec nos sociétés. On le voit aussi dans l'éducation des garçons. C'est ce qu'on leur inculque. Un garçon, dès lors qu'il fait ses devoirs, il peut tout faire. Alors que les filles, elles, vont être sous clé.
Sarah Jane Fouda, vous poursuivez votre enquête qui peut-être un jour donnera lieu à plus qu'un article, à un livre, pourquoi pas. Je vais redonner le numéro de téléphone de notre standard s'il y en a qui veulent joindre Sarah Jane Fouda. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp. Et bien évidemment, pour le moment, vous êtes en phase, vous continuez votre enquête, vous continuez à recueillir des témoignages. Vous avez juste, Anna Navarro, vous souhaitez intervenir?
Oui, je demandais juste, est-ce que vous avez parlé avec vos témoins, vos femmes témoins, est-ce que vous avez parlé de l'affaire Weinstein et des mouvements MeToo? Est-ce qu'elles avaient un regard là-dessus ou quel commentaire?
Elles ont beaucoup de regards sur DSK, parce que ça, elles s'en souviennent.
Donc ça veut dire que vous avez enquêté dans la sphère plutôt francophone?
Oui, essentiellement francophone. Elles sont sénégalaises, elles sont guinéennes.
Un message de Vincent qui nous parvient, je crois qu'il est de Côte d'Ivoire, d'après ce qu'on me donne. Le harcèlement sexuel en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, est un problème crucial, car bien que des lois soient votées, il n'y a pas de suivi, même en cas de plainte, les victimes ne sont pas prises au sérieux. J'ai l'impression en plus qu'il y a souvent confusion entre harcèlement sexuel et agression sexuelle. Et en réalité, il y a déjà un problème sur la prise en compte des plaintes pour les agressions sexuelles et donc bien évidemment pour les viols.
Mais c'est presque une suite logique.
On va continuer le cours de l'émission bien évidemment parce qu'il y a d'autres sujets dont vous souhaitez discuter, les tchatcheuses. Mais juste si vous aviez un appel à lancer, Sarah Jane Fouda, profitez de ce micro.
Moi, j'aimerais bien que les femmes continuent, et les hommes d'ailleurs sont invités, qu'on essaie de se mettre en contact. Et puis voilà, tout simplement parce que c'est un sujet de société et que nous, en Afrique, à un moment donné, il faut quand même qu'on choisisse les sociétés dans lesquelles on veut vivre. C'est pas une question de culture.
Et de subir.
Merci à vous, Sarah Jane Fouda. Vous restez avec nous, bien sûr, jusqu'à la fin de l'émission. Je redonne le numéro de téléphone pour ceux qui veulent réagir en direct, y compris 33 1 84 22 71. 71. Alors, on est depuis le début de l'émission un peu encore dans le prolongement et la déflagration de l'affaire Weinstein, vous l'avez compris, les voisins, les voisines. Mais pas que. Veiju Naravan, vous souhaitez revenir sur une nouvelle loi en Inde qui interdit la gestation pour autrui, la GPA, c'est-à-dire c'est la mère qui porte le bébé d'une autre femme qu'on lui a implanté, on lui a implanté un embryon. Sauf que les couples indiens infertiles, donc interdiction de la GPA, sauf pour les couples indiens infertiles qui sont mariés depuis au moins 5 ans et la mère porteuse devrait être bénévole. Autant dire que ça n'a plus rien à voir avec ce qui était autorisé jusqu'à maintenant en Inde, où la mère porteuse était un business, d'ailleurs tout comme aux États-Unis, sauf que là ça se passait dans un pays très pauvre, on avait 22% des mères porteuses qui vivaient sous le seuil de pauvreté, avec des cliniques à New Delhi, à Bombay, qui étaient vraiment des usines à bébés et qui étaient des usines à bébés pour des couples occidentaux qui venaient homosexuels ou pas, qui venaient faire porter un bébé par ces femmes indiennes. Vous dites que ça n'est pas une bonne chose qu'on supprime cette marchandisation du corps des femmes en Inde.
Non, je dis d'abord que le gouvernement indien doit, quelque part, la société indienne doit donner à ses citoyens la possibilité d'avoir une vie digne, correcte, et de sortir de la pauvreté.
Les mères porteuses.
N'importe qui. Mmh. Mais si d'accord. Quelqu'un ne peut pas sortir de la pauvreté et une femme a la seule moyen de sortir ça en faisant des bébés pour autrui, et le gouvernement ou d'autres instances, d'autres institutions n'ont pas rempli leur responsabilité envers elle, parce qu'elle n'a pas d'éducation, elle n'a pas de job, elle vit dans la pauvreté et la misère.
Et avec une grossesse, elle peut se faire 5 000 dollars.
Absolument. Et si elle peut sortir de cette situation, sa méthode d'agir est parfaitement compréhensible. Je comprends que le gouvernement indien veuille mettre fin à ce qu'ils appellent un trafic, mais qu'est-ce qu'on donne à ces gens qui faisaient des bébés pour les autres? À la place, qu'est-ce que vous leur donnez? Est-ce que vous donnez une éducation digne de ce nom? Est-ce que vous donnez un job? Est-ce qu'on crée les circonstances dans lesquelles...
On pourrait tout laisser légal. On peut aussi dire que le trafic de drogue doit rester légal parce que les gens sont pauvres, qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir.
Vous
voyez, avec ce raisonnement-là, excusez-moi, mais...
Oui, je comprends ce que vous dites. Mais ceci dit, cette loi ne va rien arranger parce que cette pratique ne va pas s'arrêter. L'Inde est une société archi corrompu. Les gens qui ne pourront pas faire autrement pour gagner leur vie,
Donc ça veut dire que vous défendez même pas la GPA bénévole, vous défendez carrément la GPA marchandisée, c'est-à-dire rémunérée.
Non, je dis simplement qu'il y aura un trafic épouvantable, un trafic noir.
Où les filles seront moins bien protégées parce qu'accueillies dans des cliniques moins officielles.
Exactement, ça va devenir clandestin. On parle, comme on disait autrefois, d'avortement. Si on interdit totalement l'avortement, il y a des décès parce que les gens le feront quand même.
C'est un point de vue, effectivement.
Donc, il faut mieux réglementer ce soi-disant trafic, avoir les possibilités où les femmes peuvent faire cette chose si c'est contrôlé, s'il y a accord partout, etc.
Vous connaissez le point de vue en France de pas mal de femmes, y compris des femmes féministes. Je pense notamment à la philosophe Sylvia Nagasinski qui a toujours
la femme
expliqué
de Lionel Jospin.
Tout à fait, ancien premier ministre, qui a toujours expliqué que pour une partie de ces femmes intellectuelles qu'il s'agissait purement et clairement d'une marchandisation du corps, même si d'ailleurs, parce que les situations de femmes bénévoles, en réalité, c'est toujours plus compliqué. Quelles sont vos positions, les tchatcheuses, là-dessus?
La nouvelle loi indienne ressemble beaucoup à la loi qui vient, a été adoptée au Portugal, qui permet la GPA, mais dans des cas très spécifiques, et avec tous ces parents...
Non rémunérés,
absolument bénévole, visionné avant et suivi par un conseil d'éthique, médical, psychologique, juridique, etc. Et donc, c'est vraiment une possibilité pour les couples qui ne pourraient pas avoir d'enfants autrement. Donc, mais je me pose la question aussi, le Portugal a dépassé le stade de pauvreté ou peut-être une partie de la population indienne, mais je me pose la même question. Je peux comprendre l'argument de Vajou. C'est un argument très explosif et très, je pense, rhétorique. mais je comprends que à partir du moment où l'État ne remplit pas la fonction de garantir des chances égales à tout le monde ou à presque tout le monde dans sa société, qu'il n'y a pas une redistribution de richesses qui permet aux gens d'avoir une vie digne, que je comprends que ce sera pour beaucoup de femmes la seule solution, la seule voie
Paola.
À s'en sortir.
Oui, mais enfin, c'est un peu particulier parce que moi, bien entendu, je suis absolument d'accord pour la GPA de façon volontaire pour aider notamment ces familles qui ne peuvent pas avoir des enfants, mais dérange les mots marchandisation, c'est ça qui est pénible. Mais en fait, j'ai une question, est-ce que par ailleurs, cette loi ne déclenche pas justement une série de mesures pour aller vers une aide plus accrue vers cette
non, justement, c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire ces femmes qui vivent dans la misère absolue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles gagnent moins que 2 dollars par jour pour vivre.
Celles qui sont mères porteuses.
C'est celles qui deviennent mères porteuses.
Jusqu'à maintenant, jusqu'à l'interdiction, puisque là, ça y est, il y a le décret d'application. Donc ça va être terminé. Je ne sais pas ce que vont devenir les activités de ces cliniques. Mais la grossesse était rémunérée 5 000 dollars. La clinique facturait entre 20 000 et 30 000 dollars. Donc beaucoup moins cher qu'aux États-Unis.
Business,
Oui, c'est vrai. Mais dans ces cliniques, au moins, c'était des cliniques qui étaient avec des vrais médecins où les grossesses se passaient correctement, c'était pas une activité clandestine avec les morts maternelles et toutes les autres complications qui vont se mettre en place actuellement.
On passe à un autre sujet. Anna Navarro-Pedro, l'Académie suédoise l'a annoncé le mois dernier. Le prix Nobel de littérature 2018 ne sera pas décerné cette année en raison d'un scandale sexuel. On y revient toujours. Il sera reporté en 2019 et donc il y aura 2 prix Nobel de littérature l'an prochain. Et vous posez cette question assez drôle, il faut bien dire. Est-ce une perte incalculable?
Sully Prudhomme, ce poète français, le premier écrivain à recevoir le 10 décembre 1901 à Stockholm, le premier prix Nobel de littérature de l'histoire.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The Et oui, Bob Dylan, le chanteur américain idole des années 60, le Hugo Frey américain, a reçu le prix Nobel de littérature. Un chanteur folk qui reçoit le prix Nobel de littérature. Pour les puristes, c'est comme si McDonald's recevait une étoile Michelin. Ben Bob Dylan, c'est qui ça? C'est un chanteur comme Kenji Girac? On n'a jamais entendu parler, il est pour passer à The Voice. Hein. Pourquoi pas le Nobel de la paix à Bob l'éponge? Non, remarquez, en France, on est tranquille. Il n'y a pas trop de chances qu'un chanteur reçoive le prix Nobel de littérature. Vous imaginez Booba, prix Nobel de littérature?
Tu veux frimer, tu veux taise, garde l'empêche. Depuis le crime pèse, on défait, garde l'empêche. Je veux que tu viennes rapper gratos, garde l'empêche. Si c'est long, sera la mort.
Bon, tout ça pour dire que le Nobel de littérature est englué à l'heure actuelle dans un scandale sexuel et d'ailleurs aussi financier. On va pas revenir peut-être dans tous les détails parce que vous, ce que vous souhaitez interroger dans le fait que le Nobel ne sera pas décerné cette année, deux fois l'année prochaine, ça pose une question plus globale, Ana Navarro-Pedro.
Oui, ça pose même deux questions, je dirais. Alors, la question la plus globale, c'est... Il s'est auto-dévalorisé ce prix, qui est quand même le plus extraordinaire au monde pour la littérature et pour la culture. Mais ces dernières années, des choix qui nous semblaient très étranges, il semble maintenant peut-être avoir un coup de projecteur différent et peut-être une explication différente au vu des scandales financiers et sexuels. Les scandales sexuels ont été cachés, c'est un Français époux d'une poétesse, d'un membre de l'académie qui est accusé au moins de 18 viols et on l'appelait déjà un type qui était connu pour ses abus et ses harcèlements sexuels à Stockholm. Mais c'est le silence, la chape de silence maintenue dans cette académie pour quelque chose vraiment du 18e, 19e siècle qui a explosé avec les nouvelles technologies et le mouvement MeToo, au balance ton porc, au yo también. Donc voilà, donc ça, il y a déjà un clash entre deux mondes, deux temps, deux ères différentes. Et puis en même temps, le prix était tellement extraordinaire et puis tout d'un coup... On comprend qu'il y a des intérêts financiers, inside information, c'est-à-dire que peut-être des noms ont été balancés pour des intérêts financiers avant la divulgation du nom, que peut-être on est allé dans un sens ou dans un autre pour des intérêts privés.
Ça te surprend ça?
Non, pas du tout.
Ah d'accord,
pas du tout.
Mais ce que je veux
dire, non. Mais ce que je veux dire,
pas du tout.
Non, parce que l'être humain est ce qu'il est. Quand même, ça va très loin là-dedans.
Ça sert pas la littérature internationale,
on va dire.
Ça ne sert
pas la littérature
nationale. Il reste plus que 10 membres sur 18.
Voilà, il en faut 12 pour pouvoir décerner le prix. Et on se demande, on se pose la question, est-ce que ce prix va pouvoir survivre? Peut-être pas dans l'académie. S'il survit, ce ne sera pas avec l'académie suédoise.
Alors, ce n'est pas la première fois que le prix n'est pas décerné. Hein, il n'a pas été...
En plusieurs années.
Durant la guerre, 1914, 1918.
Parce qu'il n'y avait pas d'auteur suffisamment...
En 1935, aucun auteur n'avait été jugé digne de gagner le prix.
Oui, qu'en 1949 non plus. Vraiment.
Ouais, donc...
Et donc, c'est intéressant parce que moi, je peux vous parler de deux ou trois auteurs portugais qui sont absolument extraordinaire et qui n'ont jamais été retenus par l'académie. Donc, du coup, je me demande,
voilà,
est-ce
pour
que...
ça qu'elle voulait en parler
justement.
La proposition d'écrivain suisse Metin Arditi qui suggère de décerner un des deux prix qui seront décernés, il y aura deux prix pour le prix d'un l'année prochaine, en principe, à Philippe Roth, à titre posthume.
Mais voilà. Ah, pourquoi pas Miguel Torga, portugais à titre posthume.
Veijo Naravat, vous souhaitez revenir sur un sujet qui vous touche particulièrement, puisqu'il touche la presse en Inde. Ces dernières semaines, plusieurs grands médias indiens sont accusés de corruption et de connivence avec le gouvernement indien. Énorme scandale. Ils sont en fait tombés dans le piège d'un site d'investigation, d'ailleurs qui est un... Bon, quand on enquête, tendre un piège, c'est toujours un processus journalistique discutable.
Douteux.
Vous dites douteux carrément.
Oui, je n'approuve absolument pas. Je pense que déontologiquement, c'est très important.
En deux mots, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le site d'investigation Cobra Post.
Voilà. Ils sont allés avec une caméra cachée et ils sont allés voir les directeurs des plus grands journaux indiens et les plus grands sites de télévision. Et ce sont des journaux qui vont à peu près 2 millions d'exemplaires par jour. Wow. Ce ne sont pas des petites structures. Et là, ils ont dit, nous sommes des représentants d'une organisation culturelle d'extrême droite hindouistique nationaliste. Et on voudrait vous donner l'équivalent d'1 million de dollars comme budget publicitaire pour avoir la couverture de nos activités, donc c'est-à-dire promouvoir la religion hindouistique, et plus proche de l'élection, de publier les articles qui pousseront une polarisation entre les hindous et les musulmans.
Cette proposition était bien évidemment fausse. C'était un piège.
C'était complètement faux. C'était un piège.
Des médias ont accepté.
Mais les médias étaient totalement tentés par cet appât. Et ils ont dit, ne vous inquiétez pas. Nous sommes les gens qui dirigeons les journalistes.
Parmi ceux
On
qui
a
sont...
des journalistes qui seront réluctantes de faire ce genre d'article. On va les écarter. On va prendre les gens qui sont pliables.
On
ne
va pas demander
pliables.
À Viju Naravan d'écrire les articles,
oui, voilà,
n'est-ce pas
peut-être.
Parmi ceux qui sont tombés dans le piège, le propriétaire du groupe Times, l'éditeur du Times of India.
Qui est le plus grand journal en anglais dans le monde, qui publie à peu près 3 millions d'exemplaires par jour.
Alors, qui sont les gagnants et les perdants de ce type de scandale ?
Je crois que la presse entière s'est discréditée dans cette affaire. On voit jusqu'à quel point, dans l'Inde aujourd'hui, ce pays où la presse est censée être libre... est libre en beaucoup de sens parce que l'enquête de Cobra Post lui-même démontre la liberté de la presse en quelque sorte, mais que les intérêts économiques qui sont très proches du gouvernement actuel, qui est un gouvernement hindouiste hyper nationaliste, il y a un nexus entre le politique et les...
Est-ce que quand même, ça ne pourrait pas provoquer à terme une prise de conscience pour un grand ménage ? Là, vous dites que la presse est discréditée, donc au profit du coup, forcément, des populismes dans ces cas-là, hein, et des fake news, etc. Internet est le grand gagnant. Est-ce que ça ne pourrait pas provoquer une prise de conscience, un ménage à l'intérieur même de cette profession ?
Ben, jusqu'au moment que les grands médias sont possédés par les grands groupes industriels et autres, qui ont des intérêts en commun avec le gouvernement actuel, je vois avec difficulté comment ça peut progresser. Ceci dit, il y a beaucoup de groupes nouveaux, des journalistes, des sites indépendants comme Slate ou Rue 89, il y a en Inde The Wire, The Scroll, beaucoup, beaucoup d'initiatives entreprises par les journalistes eux-mêmes qui demandent un crowdfunding. Ils demandent aux lecteurs de leur
financement
donner
participatif pour un autre type de presse.
Et sans annonce. On n'a pas d'annonce sur ces plateformes. Et là, il y a de l'espoir.
Une petite question. Les gens qui sont tombés dans cette offre, qui ont accepté cette offre, c'était des journalistes, des personnes dont le métier était le journalisme, ou c'était les propriétaires, ou c'était des directeurs financiers ?
Des décideurs ?
Des décideurs en marketing ?
Dans le Times of India, c'était celui qui possède le journal, carrément, la famille qui possède le journal, avec son directeur marketing. Pour la plupart de cas, c'était des directeurs marketing. Qui ont dit qu'on contrôle les journalistes. Voilà. Qu'on contrôle les journalistes.
Donc via les rédactions.
Mais il y avait quelques journalistes, mais il y avait quand même deux journaux qui ont carrément dit sortez, on ne veut pas le faire.
J'avais donné le numéro de téléphone tout à l'heure dans l'émission et bien évidemment nous vous donnons la parole pour ceux qui veulent réagir 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un auditeur Aboubakar qui est en région parisienne et qui veut réagir à l'intervention de Sarah Jane Fouda tout à l'heure sur le harcèlement sexuel et les violences sexuelles sur le continent africain. Bonjour Aboubakar.
Bonjour, d'abord je tiens à préciser une chose.
Oui, pardon, j'ai dit que vous étiez en région parisienne, c'est une erreur, vous êtes à Marseille, toutes mes excuses à Boubacar.
Voilà.
On vous écoute.
Précisons au premier arrondissement.
Oui, allez-y, on vous écoute. Voilà.
Non, en fait, je sais qu'elle mène une belle lutte. C'est bien de mener des combats.
Ouais. C'est pas une lutte, c'est une enquête, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Disons une enquête engagée.
Voilà, une enquête, mais quand même, qui est plus qu'une enquête, parce qu'elle-même, elle est une femme, elle est engagée.
Alors vous, comment vous réagissez en tant qu'homme et africain, je présume ?
Oui, moi, précisément, tout ce qu'elle dit jusqu'à là, c'est pas faux, mais il faut pas aussi, ce que je tiens à signaler quand même, il faut pas généraliser les choses, parce que l'Afrique, quand même, elle reste un grand continent et avec beaucoup de cultures différentes. Moi, je suis malien. Et voilà, j'ai la culture de Manec.
Mais vous, est-ce que vous vous êtes reconnu dans certaines caractéristiques sur la drague, sur le consentement, sur des choses comme ça, ou parmi vos amis, dans la façon de...
Évidemment, j'ai passé toute ma jeunesse dans les boîtes de nuit, dans les maquis, différents quartiers, mais dans différentes capitales de l'Afrique de l'Ouest.
D'accord. Donc l'enquête de Sarah Jane Fouda touche un point à une réalité, d'après vous?
Non, il y a une réalité qu'on a tous en commun, cette génération. Vous savez que moi, je suis né dans les années 80, il n'y avait même pas la télé au Mali.
Oui.
Le Mali a eu la télé en 84, par exemple, quand vous avez compris. Les choses vont très vite en Afrique. L'Afrique, soudain, on est rentré dans un mouvement que les choses allaient très vite. Et puis, on n'oublie pas que l'Afrique aussi a hérité... un héritage colonialisme dépassé.
Et Aboubacar, est-ce que vous pensez que la nouvelle génération ultra informée aujourd'hui dans les villes africaines serait plus à même de prendre conscience de ce problème de société qu'elle soulignait, non pas de problème culturel, ce qui n'est pas tout à fait la même chose?
Si, en fait, oui ou non, parce qu'on voit que, par exemple, tout récemment, il y a eu 3 mois, il y a eu une fille qui a été violée à Bamako, et c'est là. Ça a choqué toute la société malienne, parce que c'est des choses qui n'arrivaient pas avant.
Oui, ça c'est un cas qui a été médiatisé. Les viols, il y en a tous les jours dans toutes les grandes capitales du monde.
Ça a été médiatisé.
Sarah Jane Fouda, vous voulez répondre? Il nous reste vraiment quelques minutes, très rapidement.
Moi, ce que j'aimerais demander à Aboubacar, c'est qu'est-ce que le colon vient faire là-dedans? C'est pas lui qui viole, qui agresse.
Alors, attendez, on va pas revenir sur un débat sur la colonisation par rapport aux agressions sexuelles, parce que là, il nous faut encore quelques heures. Mais par rapport à son intervention?
Par rapport à l'intervention, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, oui, il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses qui sont fausses. C'est pas la question, c'est un problème de société. C'est-à-dire qu'on a des choix à faire, c'est pas une fatalité, c'est une calamité, et on doit vraiment la combattre.
Ana Navarro-Pedro?
Oui, petite question.
C'est la tchatcheuse portugaise qui vous parle, Aboubacar.
Oui, il semble que ça... Bonjour, il semble que cela ait titillé un petit peu, donc qu'il y ait là quelque chose qui ne va pas, et ma question c'est...
Il y a une grande franchise dans l'appel d'Aboubacar.
Oui, énorme. Et là, la question, c'est peut-être que c'est un sujet à regarder avec des yeux plus ouverts et avec un peu de bonne foi aussi. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose à regarder. Et puis, c'est tellement agréable le badinage et la drague.
Oui, mais en fait, Aboubacar, ce que je voudrais vous dire, c'est que souvent, les hommes ne savent pas ce que vivent les femmes. Tout simplement, ils s'en rendent pas compte, et ils s'en rendent pas compte aussi parce que les femmes les protègent. Moi, j'ai des cas ou des témoignages, mais oui, on vous protège. Et or, on crée notre enfer en vous protégeant. Parce que moi, j'ai des cas d'une jeune femme qui a été violée par son patron. Elle n'a rien dit.
Dans quel pays ?
Alors ça, c'était en Côte d'Ivoire. Donc, elle travaillait dans une pharmacie. Donc, elle a été violée par monsieur le pharmacien et elle était mariée. Et alors, du coup, son problème, c'était de trouver la pilule du lendemain pour que monsieur ne sache pas que le patron l'avait violée. Donc, vous vous rendez compte, tout ça pour que le mari ne souffre pas, on ne dit rien. Et du coup, vous ne vous rendez jamais compte de ce que nous, on vit en tant que femme. C'est pas une question d'hommes spécifiquement. Le problème, c'est que c'est tout le temps. On sort dans la rue, les hommes vous dévisagent, on vous mate, faut dire les choses.
Aboubacar?
Oui, et je vais juste souligner, il faut que l'Afrique, tant qu'il n'y a pas d'éducation massive en Afrique, tant que les Africains ne connaîtront pas leurs droits, toutes ces choses-là, on ne peut pas combattre contre ça. Regardez la femme en France, par exemple. Les droits des femmes, c'est lorsqu'elle a évolué, lorsque les femmes se sont impliquées dans la politique. Et aussi, les filles ont commencé à être éduquées. Et sinon, les filles ne sont pas éduquées. L'éducation, elle est précaire.
Aboubacar, merci de nous avoir appelés. Vous, en tout cas, merci pour ce témoignage, pour votre franchise et puis aussi pour les pistes intéressantes que vous donnez. C'est vrai que rien ne pourra bouger sans éducation et c'est le cas dans tous les pays à l'heure actuelle. C'est au cœur de tous ces débats-là quand même.
Justement, ce qu'on discutait tout à l'heure avec les cas féministes au Chili, c'est exactement une question d'éducation, pas justement la loi, l'application de la loi et tous toute la manifestation qui va avec, c'est éduquer les gens. Autant les filles, autant les hommes.
Ça sera le mot de la fin. Merci pour cette belle conclusion, Paola Martinez. Merci à vous, Veijuna Rava, Nana Navarro Pedro. Et merci à vous, Sarah Jane Fouda. Les tchatcheuses, vous revenez quand vous voulez. Vous pouvez bien sûr réécouter aussi les voisins et les voisines. Toutes nos émissions libre service sur l'appli RFI, Pure Radio, à la rubrique des magazines. Et on se retrouve demain pour 7 milliards de voisins. Merci à vous tous de votre fidélité, les uns et les autres, les voisins et les voisines. Et bien sûr, vous pouvez chaque jour nous appeler en direct dans l'émission.